j'ai dit à maintes reprises que l'État, issu de la Révolution nationale, devait être autoritaire et hiérarchique.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, troisième épisode de notre série « Le régime de Vichy fut-il une dictature ?» Une question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Laurent Joly. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les manœuvres qui amènent à Vichy les 10, 11 et 12 juillet 1940 au sabordage de la Troisième République. Le 10 juillet 1940 et les jours suivants, le coup d'État a réussi. La République a disparu pour laisser place à l'État français. Le ton et les formules utilisées ont de quoi faire frémir d'effroi les sensibilités républicaines. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français. En conséquence, nous décrétons, etc., etc. On le voit, le maréchal Pétain, qui, je vous le rappelle, le 17 juin, a fait le don de sa personne à la France, eh bien, trois semaines plus tard, ce héros sacrificiel prend. Il vole même, en s'attribuant des pouvoirs exorbitants. Il est à la fois président du Conseil et chef de l'État. Et oui, puisqu'il n'y a plus de République, il n'y a plus non plus de président de la République. Celui qu'il était encore hier, Albert Lebrun, a dû quitter les lieux. Les ministres, désormais, ne sont responsables que devant Pétain, qui monopolise l'exécutif et le législatif. Tout contre-pouvoir a disparu. Et, innovation stupéfiante, sous le titre de vice-président du Conseil, Pierre Laval s'autoproclame dauphin de Pétain si celui-ci, 84 ans, venait à disparaître. Quant à la nouvelle Constitution, promise aux parlementaires, elle ne verra jamais le jour.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Alors que la France, dans la stupeur et l'angoisse, subit la victoire allemande, que des millions de Français sont encore sur les routes de l'Exode, que des dizaines de milliers de soldats sont morts au front, que près de 2 millions d'autres sont prisonniers et que le Royaume-Uni, désormais seul en guerre, subit les bombes allemandes, la priorité de Pétain, depuis l'hôtel du Parc à Vichy, est dans un esprit de revanche la mise en œuvre de son programme de révolution nationale visant à instaurer un culte de la personnalité, la sienne, et à rénover la France, corrompue à ses yeux par le parlementarisme et l'esprit de jouissance né du Front populaire. Autre priorité, bien avant que les Allemands n'aient exigé quoi que ce soit, l'exclusion des étrangers et des Juifs. Le 12 juillet seulement, une des toutes premières lois de Vichy exclut des cabinets ministériels les personnes qui ne sont pas nées de parents français. Une loi d'exclusion qui sera suivie de nombreux autres. Et déjà, dès l'été 40, Vichy prépare un statut des Juifs qui sera adopté en octobre. Chose totalement inédite dans le droit français, ce statut va définir le mot « juif » et utiliser le concept de « race juive ». À ce propos, Paul Baudouin, le ministre des Affaires étrangères, note dans son journal « C'est le maréchal qui se montre le plus sévère ». Début octobre, Pétain se félicitera du travail accompli.
En moins de 6 semaines, une tâche législative immense, tâche à laquelle aucun gouvernement n'avait osé s'attaquer, a été accomplie. La révision des naturalisations, la loi sur l'accès à certaines professions, la dissolution des sociétés secrètes, la recherche des responsables de notre désastre témoignent d'une ferme volonté d'appliquer dans tous les domaines un même effort d'assainissement et de reconstruction.
Laurent Joly, est-ce que dès juillet 1940, on peut qualifier le régime de Vichy de dictature ? On a longtemps parlé pour le régime de Vichy de régime autoritaire. Qu'est-ce qui change en fait dans ces termes ?
Effectivement, à partir du 11 juillet, 12 juillet 40, il n'y a aucun doute. Enfin, il n'y a pas un historien, une historienne qui vous dira le contraire. Vichy est bel et bien une dictature. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas encore complètement passé dans les manuels scolaires, dans le grand public. On hésite. Ben, c'est clair, c'est net, c'est une dictature. Et le fait qu'il y ait eu ce changement institutionnel donne effectivement à ce nouveau pouvoir une sorte d'assise qui fait qu'en quelques jours, on décide de faire des réformes qui sont vraiment l'application d'idées, de programmes qui étaient déjà là, mais qui étaient ultra minoritaires. C'est le programme de l'extrême droite qui, depuis des années, dit qu'il faut réviser les naturalisations. Il y a une loi depuis 1927 qui permet de naturaliser les étrangers. Ça fait trop de français papier. Vous voyez, cette notion de français papier. Donc, c'est l'une des priorités. Et ce qui est assez ahurissant quand on entend effectivement le maréchal Pétain, c'est qu'il nous annonce les réformes et on voit que ce sont que des réformes d'exclusion. Donc, il y a vraiment cette idée que l'exclusion est centrale. les sociétés secrètes, on veut renvoyer les instituteurs pas assez patriotes. Enfin, voilà, on a comme ça désigné un certain nombre d'ennemis, et parmi ces ennemis, il y a les naturalisés, parce que c'est même pas les étrangers qui sont visés, ce sont des Français, mais dont on considère qu'ils sont pas assez Français,
vraiment
soit parce qu'ils sont d'origine étrangère, soit parce que, pire encore, ils sont d'origine étrangère et juifs. Donc c'est la priorité, et c'est une politique qui est mise en œuvre dès l'été 1940. Cabinet ministériel, c'est la première loi de Vichy publiée au journal officiel.
Le 12 juillet.
Le 12 juillet, c'est. Et ensuite, la fonction publique, ensuite certaines professions, médecins, avocats, une commission de révision des naturalisations, ça c'était le colonel Delaroque qui proposait ça depuis des années, s'est instituée dès le 20 juillet 1940. Donc, on voit quelles sont ses priorités. C'est les ennemis et assainir, comme il dit. Et Pétain va pousser quand même le niveau de sectarisme politique jusqu'à faire interner des hommes qui étaient ses collègues au sein du gouvernement un mois et demi avant. Paul Reynaud, Georges Mandel, qui étaient dans le même cabinet d'Union nationale, et bien il les fait mettre en prison. Donc on voit qu'on a des gens qui sont sans limite, ils ont tous les pouvoirs et ils sont en plus dans une logique. Il faut quand même bien s'imaginer ce qu'ils ont en tête. À ce moment-là, il y a la bataille d'Angleterre. On est convaincu que l'Allemagne, elle va bientôt gagner la guerre.
Oui.
Que tout ça, c'est une question de semaines. Donc ça explique aussi cette précipitation avec laquelle on veut réformer le pays parce qu'on se dit que la France va s'installer durablement dans une Europe des totalitarismes, une Europe nazie.
Est-ce qu'on peut parler d'une dimension monarchique de ce régime ?
Ah ben oui, le régime est monarchique à partir du moment où vous avez le chef de l'État qui désigne un successeur. C'est donc bien une monarchie. Et d'ailleurs, le fantasme de Raphaël Alibert, qui était un ultra-royaliste, lui se disait, bon, Laval, peut-être qu'on en finira par s'en débarrasser, mais il y aura la Restauration. Et parmi les ministres de Pétain, vous avez cité Baudouin, il y en a un autre qui s'appelle Boutillier, ministre des Finances et de l'Économie. Tous les trois, ce sont des royalistes. Donc vous voyez, les trois principaux ministres de Pétain en 40, le garde des Sceaux Alibert, le ministre des Affaires étrangères Baudouin et le ministre des Finances et de l'Économie Boutillier, eux, ils rêvent d'une restauration royaliste. On va refaire venir le roi. Voilà. Donc il y a vraiment une logique monarchique qui est centrale.
Deux témoins que j'ai cités précédemment parlent à propos du régime de Vichy de fascisme.
C'est pas du fascisme, c'est une dictature nationale cléricale, si vous voulez. C'est un peu ce que Franco fait en Espagne, c'est-à-dire qu'on s'appuie à la fois sur le catholicisme, c'est une matrice très importante de Vichy, il y a une dimension d'ordre moral, donc c'est vraiment cet aspect-là qui est central. Et puis l'autre aspect qui est décisif, c'est le côté nationaliste, au sens où le nationalisme vise les ennemis de l'intérieur, c'est le patriotisme tourné vers les ennemis de l'intérieur. Donc c'est ces deux aspects-là. Mais il y en a un troisième, et qui est incarné par Pierre Laval, c'est celui de la collaboration. Et Vichy va cheminer comme ça, entre cette volonté de faire une révolution nationale et cette idée qu'il y a un ordre nouveau européen et on doit s'adapter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le statut des Juifs, très clairement. Pourquoi Vichy fait une loi raciale ? C'est parce qu'il y a à la fois l'antisémitisme français, mais il y a aussi cette idée
qu'il faut s'adapter,
bien sûr. Il faut s'adapter à l'Europe nazie. Tous les pays qui sont proches d'Hitler adoptent des lois raciales. Et au départ, on est hésitant à faire une loi raciale, parce qu'on se dit quand même, dans l'opinion, c'est pas sûr que ça passe. Vous vous rendez compte, un texte qui définit les Juifs d'un point de vue racial, c'est les nazis qui faisaient ça, c'est pas les Français. Ben, ils le font en octobre 40, parce qu'il y a vraiment cette volonté de s'insérer dans l'Europe allemande.
On a vu le rôle décisif joué par Pierre Laval dans la liquidation de la République. Laval qui se voit, donc, vous l'avez dit, en dauphin de Pétain. Dans cette perspective, est-ce que Pétain, pour lui, n'est qu'un vieillard sénile, une marionnette manipulée ? Finalement, est-ce qu'il ne déciderait pas vraiment les choses ? En fait, on voit quand même, il décide des choses, Pétain. Il n'est pas juste une marionnette.
Absolument. Pétain, il est central en 40. Il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, on lit parfois dans certains manuels ou même sur Internet que 1940, c'est le premier gouvernement Laval. Vous voyez que le gouvernement de juillet 40, c'est un gouvernement Laval avec Pétain qui serait chef de l'État. Non, Pétain, il est véritablement en 40, chef de l'État et président du Conseil. C'est vraiment lui qui dirige tout en 40. Ça va changer après. Ça changera en 41, en 42. Mais dans l'esprit de Laval, effectivement, Laval savait qu'à terme, il prendrait la place de Pétain et il a été lui-même étonné de voir qu'en fait Pétain avait bel et bien l'ambition de mener sa propre politique. Et on le sait, Pétain ne va pas hésiter à se débarrasser de Laval en décembre 1940 et nommer un nouveau dauphin, un nouveau successeur. Donc oui, cette logique monarchique qui va continuer en la personne de l'amiral Darlan.
Et donc, je l'ai dit, Paul Baudouin, à propos du statut des Juifs d'octobre 1940, il dit que c'est le maréchal qui se montre le plus sévère.
Absolument. Alors, dans le cahier photo, on publie un document qui est inédit. On a le texte du premier statut annoté de la main de Pétain et on a le texte du statut annoté de la main de Baudouin. Donc on voit que ça a été deux des acteurs de la rédaction du statut. Baudouin était un peu plus modéré que Pétain sur le statut des Juifs.
Merci Laurent Joly. On poursuit cette discussion dans l'épisode suivant. Nous verrons comment le régime de Vichy va se radicaliser en 1941 et 1942 entre collaboration avec l'Allemagne et participation à la politique d'extermination des Juifs.